Bienvenue dans le premier talk de My Yes Life, qui se déroulera en 3 épisodes et au cours duquel nous aborderons l'impact de la santé sexuelle sur la vie professionnelle des femmes. Vous écoutez la dernière partie de notre premier talk. Bonne écoute.
Claire, toi, l'idée c'était qu'aussi tu puisses nous donner un peu, et ça fait bien le lien avec ce qu'on vient d'évoquer avec Catherine sur il y a des clés pour accompagner. Ce que toi, tu vois comme piste, on n'a pas évoqué d'autres spécificités. Donc là, on a parlé de soit de moments de vie, soit de parcours d'infertilité, mais il y a aussi tout ce qui touche aux pathologies spécifiquement féminines, que ce soit les maladies chroniques gynéco hors cancer, les cancers plus spécifiques. Merci Nathalie. Et du coup, l'idée, c'est que tu puisses aussi un petit peu nous donner des clés sur ce que peuvent faire les employeurs dans ce cadre-là et pourquoi toi, ça te semble important qu'ils s'en saisissent.
Oui, bah, de toute façon, moi, je rejoins tout ce que vous avez très bien exprimé. C'est évident que la santé, qu'elle soit féminine ou masculine, elle impacte la vie pro. Et en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles ne peuvent plus trop se cacher derrière ce truc de « ça ne nous concerne pas, ce n'est pas une prio ». Parce que si on regarde les événements biologiques ou les pathologies, en fait, il y a tellement de choses. Endométriose, SOPK, cancer du sein, AVC, etc. etc. Bon, a priori, il ne faut pas avoir fait polytechnique pour comprendre qu'il y a 100% de chances que ça arrive dans une entreprise. C'est sûr et certain. Donc, ce n'est pas un sujet un peu de femmes entre femmes. Et on va peut-être me taper sur les doigts quand je dis ça, mais…
On moi, est entre femmes, pour sujet, le coup.
Oui, mais c'est un sujet qui est stratégique et qui est business. En fait, ça coûte de l'argent. Moi, aujourd'hui, une salariée qui est désengagée parce qu'elle a des arrêts maladie, parce qu'elle fait 6 amis, ça me coûte 14 000 euros par an. Bah, ça joue, mine de rien. Donc, l'entreprise, elle n'a aucun intérêt aujourd'hui à ne pas le prendre en compte et à ne pas l'accompagner parce qu'en fait, elle perd de l'argent. C'est le cas aussi sur la marque employeur parce que recruter, ça ne se fait plus avec juste un bon salaire. Les nouvelles générations, ils cherchent du sens, ils cherchent de l'engagement de la part de l'entreprise. Et on n'est pas tous des entreprises à mission. Donc, il faut mettre en place des choses pour se sentir un peu appartenir, pour se sentir écouté. Et ça va être de plus en plus important, tout ce qui est politique interne, d'inclusivité, etc. Donc, voilà, moi, je pense que ça passe un petit peu par la volonté de l'entreprise de prendre ce rôle de coach, de médiateur, ce que font déjà beaucoup de boîtes, bah, notamment aux États-Unis et dans les pays nordiques. Parce que bah, nous, en France, d'autant plus, c'est eux qui choisissent l'assurance qui va être notre assurance. Donc, c'est eux qui nous remboursent in fine. Donc, si on n'est pas remboursé sur des pathologies qui sont les nôtres, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, finalement. Donc, il y a une responsabilité presque un petit peu éthique et pas juste réglementaire de dire bah, « moi, je prends ça, comme ça, c'est bon, vous êtes assuré, puis après, vous vous débrouillez, c'est vos problèmes ». Bah non, in fine, c'est pas le cas. Donc voilà, je pense que c'est pas faire une fleur aux femmes de leur donner des aides, que ce soit pour la garderie, comme tu parlais un petit peu Solène, pour la maternité, des aménagements pour des pathologies, c'est 100% stratégique dans une boîte. Typiquement, tu disais Solène que si t'as eu la chance que ta boîte acceptait que t'aies des retards, mais en fait ta boîte elle t'aurait bloqué, elle t'aurait dit bah non, tu peux pas être en retard. Je m'avance un peu, mais je pense que tu aurais recherché des offres d'emploi ailleurs et tu te serais barré parce que, évidemment, tu préfères avoir un enfant qu'aller bosser dans une boîte. C'est d'une logique, mais juste implacable. Et en fait, eux, bah, ils vont perdre de l'argent parce qu'ils vont partir en recrutement, parce qu'ils vont perdre du temps. Et tout ça, bah, c'est du business. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet où il faut que les boîtes le prennent en conscience et qu'elles accompagnent au mieux en faisant des aménagements ou alors avec des accompagnements financiers. Aux États-Unis, ils payent carrément des applications pour suivre les menstruations. Parfois, ils financent une partie des PMA, par exemple. Et ça, bah, ça participe au fait qu'on a envie de rester dans une boîte parce qu'on a de la reconnaissance. Ça va venir. Moi, je pense qu'à la France, on est un petit peu à la bourre parce qu'au-delà de reconnaître les pathologies féminines, je pense que c'est plus macro, il y a un côté de culture d'entreprise qui n'est pas la même. On sépare beaucoup plus la vie pro de la vie perso. Tant que ça, ce ne sera pas déjà un petit peu plus avancé, je pense que ce sera plus compliqué de faire passer certains sujets comme les PMA ou les pathologies.
Oui, l'idée de ces questions d'intime.
Et puis, alors, je rebondis juste sur un truc, mais alors ça, c'est assez personnel, mais Moi, je dis attention à tout ce qui est balancer des congés en veux-tu, en voilà. Je ne suis pas hyper, hyper fan parce que je ne suis pas sûre que ça va aider la place des femmes dans l'entreprise in fine. Ça va juste participer au fait que les gens vont être encore plus frileux à les recruter. Alors que des aménagements dans le travail, c'est tellement plus pertinent. On peut travailler avec des aménagements, on peut travailler en télétravail, on peut travailler avec des heures différentes. Ça ne sert à rien de nous mettre tout en congé. C'est pas la solution. Et en plus, bah, ça ne nous aidera pas, je pense, dans le milieu pro.
Donc, alors, voilà, dans cet esprit-là, j'ai échangé récemment avec une collaboratrice d'Arkea qui m'expliquait qu'en fait, ça m'a fait rire parce que c'était un truc qu'on avait le droit aussi quand j'étais petite. On avait le droit un jour de ne pas aller à l'école si on ne se sentait pas. Et ben, du coup, là, c'est un peu la même chose. On a le droit à un jour de congé. Et c'est alors pour le coup, quel que soit son genre, voilà, parce qu'on ne le sent pas et c'est un jour par mois. Du coup, on n'est pas obligé de le prendre, mais l'idée, c'est si tu le prends parce que tu sens que ça ne le fera pas et que ce soit parce que tu couvres quelque chose et que tu dis que c'est bien de ne pas aller distribuer tes virus au boulot ou parce que tu as une très grosse crise par rapport à une pathologie quelle qu'elle soit, tu restes chez toi et tu reviens le lendemain et ton jour, il sera payé. C'est la même chose. Et je trouvais que la démarche était assez intéressante parce que déjà, elle était pour le coup universaliste, on va dire. Et en plus, elle avait le privilège de donner cet aménagement et cette flexibilité que tu évoques, tout à fait.
Non, mais c'est évident que dans certains cas, les congés, c'est une forme de solution, mais pas surtout. Parce que si on se retrouve à avoir des congés pour nos menstruations au moment de la ménopause, après quand il y a ci, quand il y a mi, moi-même, je suis chef d'entreprise, finalement, il y a des congés partout.
Et ça devient
personne
compliqué.
Fait rien, ça devient compliqué. Et je pense pas, sincèrement, moi, je parle avec des femmes tous les jours, elles me disent, mais moi, je peux travailler. C'est juste qu'effectivement, quand j'ai mal, je préfère être chez moi avec une bouillotte dans mon canapé, mais je suis tout aussi efficace. J'imagine que Paola, ça doit être la même chose pour toi.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai vraiment... Tu me demandais tout à l'heure, Juliette, ce qui change par rapport au côté salarié, c'est que moi, je fais du télétravail depuis super longtemps et je n'ai pas du tout un sentiment, quoi que ce soit, où je me dis, mince, c'est tout, je devrais être au boulot, à station F ou quoi, enfin, on a quand même des bureaux. Et alors qu'avant, dans mes anciens boulots, mais j'aurais été tellement mal de demander un télétravail, ça aurait été mission impossible. Et je demande à mes copines, il y en a plein en ce moment qui sont enceintes partout autour de moi, et il y en a que 2-3 qui sont en télétravail. Quand je dis télétravail, c'est 2 jours par semaine. Hein. Alors que je suis persuadée, moi je suis plus proactive, productive en étant chez moi tranquille, sans prendre 1h30 à 2h de transport en commun tous les jours, qui ont fait que je suis alitée. Donc, c'est ça où je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément arrêter de travailler, parce que moi, ça m'aurait déprimée d'arrêter de travailler parce que j'étais alitée, mais pouvoir faire du télétravail, par exemple, ça a été ma solution, mais parce que je le voulais, clairement.
Ouais, mais c'est sûr. Moi, je pense juste qu'il faut... Mais c'est ça qui va être hyper difficile dans les entreprises, c'est qu'il va falloir aussi trier par réalité. Quand on est enceinte, on peut faire du télétravail, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la plupart des femmes enceintes ont envie de travailler parce que sinon, elles se font chier. Par contre, oui, évidemment, quand on fait une fausse couche, on a le droit à 2 jours de congé. Encore heureux. Donc, c'est vrai que le Syntec le fait, mais enfin, bon, ça me paraît très normal.
Que au Syntec, hein, pour l'instant. Hein, c'est pas une...
Après, les accords de branche, ça viendra peut-être avec le temps. Mais...
Exactement.
Bon, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des aménagements à trouver. Il faut le faire par verticale. Et malheureusement, je pense que ça viendra que lorsque la conception de la culture d'entreprise, elle aura évolué en France. Ça avance, mais on n'est pas encore au bout du bout.
Justement, on est là pour en parler.
Et c'est vrai que on parle beaucoup maman, mais finalement, c'est aussi papa. Ce que je pensais, fausse couche, ça touche aussi le conjoint et conjointe. On n'en parle vraiment pas, et ça, c'est encore plus tabou. Déjà que... Bon. C'est un sujet très, très tabou quand même quand on parle autour de soi. Et je pense qu'il y a encore moins de papas qui le disent et qui prennent justement quelques jours, alors que, ou papa ou maman d'ailleurs, conjointe,
ouais.
Parce que ça va aussi les toucher. Et je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse en effet à non-genrer en fait. C'est des périodes de vie qui vont impacter tout le monde en fait finalement.
Complètement. Bah, idem sur la PMA. Hein. J'imagine que quand tu as ta PMA et que tu y vas tous les matins, tu serais bien contente aussi potentiellement d'avoir ton compagnon qui soit avec toi et qui te tienne la main. Ça me paraît absolument normal et il devrait avoir le droit de le faire aussi.
Mais enfin, ce que je disais en préparant ce soir, sur tous les actes de transfert d'embryon, etc., c'est obligatoire que le mari soit là. Sauf que en fait, la plupart des hommes, ils prennent un RTT, quoi, parce qu'en plus, en fait, j'ai envie de dire que je pense que avoir recours à la PMA est encore plus tabou chez les hommes, parce que on va se poser des questions sur leur virilité, parce que si ça se trouve, c'est peut-être eux le problème, et que les spermatozoïdes soient pas des gagnants. Alors ça, c'est le tabou ultime, quoi. Et donc, voilà, et donc c'est un peu compliqué. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus compliqué des fois pour les femmes qui doivent supporter toute la PMA, les piqûres, etc. Et elles se sentent bien seules, alors que des fois, c'est parce que c'est leur conjoint qui a l'infertilité et pas elle. Donc, tout ça, c'est très compliqué. Après, en fait, pour en revenir sur la discussion, parce que moi, j'étais DRH, et donc je sais un peu comment ça se passe dans certaines entreprises. Et même si j'étais dans une entreprise hollandaise, je voyais très bien la différence entre le traitement RH sur l'entité française versus d'autres pays. Et en fait, un des gros soucis, et c'est pour ça qu'il faut absolument inclure les hommes dès maintenant et les papas et même les hommes qui ont des conjointes qui ont des soucis, comme on disait, endométriose, etc., c'est qu'il faut que ça ne devienne plus aussi un tabou pour les hommes, parce que cette nouvelle génération va arriver à des postes de direction, et en arrivant au poste de direction, ils vont changer les mentalités. Parce que le souci, pourquoi ça ne bouge pas trop dans les entreprises françaises, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les dirigeants des entreprises françaises, hein, que ce soit CAC 40, SBF 120, qui vont un petit peu donner la tendance de ce qu'il va y avoir dans les PME, et ben en fait, on n'a que des mâles blancs de plus de 50 ans, 55 ans, qui ont tous fait des grandes écoles, et qui, en fait, ne voient aucun souci sur ce qui va se passer chez les femmes, parce que de toute façon, je ne pense qu'ils ne s'en préoccupent pas, et que même s'ils ont des femmes qui ont des problèmes à la maison, et ben, elles n'ont qu'à prendre un médicament, aller voir le médecin, et je caricature, mais souvent, en fait, c'est des non-sujets pour eux. Ils n'y pensent même pas, quoi. Mais même...
Parce que du coup, en tant que la profession de DRH, elle est quand même énormément féminisée. Et du coup, DRH, tu n'arrivais pas à le faire entendre, c'est ça ?
Non, elle est féminisée, mais pas au niveau des DRH.
Pas au niveau des DRH,
d'accord. Les DRH, c'est bien souvent les hommes. Alors, ça bouge un petit peu parce qu'il y a des lois qui sont passées. On doit avoir 30% de femmes au COMEX, donc on met la DRH, la DIRCOM. Mais en fait, quand on est deux DRH, deux DIRCOM, qu'on a comité de direction et qu'on va dire « Bon, bah alors messieurs, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet du congé pour les femmes qui ont leurs règles ou de donner un jour pour les femmes qui ont des ménopauses. » Enfin, déjà, juste aborder le sujet quand on est dans une table, enfin, dans une réunion autour d'une table où on n'a que des mecs devant nous, enfin, faut déjà y aller.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Oui, et souvent, les DRH grands groupes, c'est des hommes.
Oui.
C'est rare de tomber sur des femmes.
Donc, du coup, tant qu'on n'aura pas aussi plus d'hommes dans les instances dirigeantes, eh ben ça bougera moins au niveau de toutes ces politiques-là, parce qu'en fait, ils ne voient pas le problème. C'est ça le souci, parce qu'ils ne le vivent pas.
Solène, moi, en tant que médecin, j'ai la notion, mais peut-être est-ce faux, alors du coup, que l'employeur est censé veiller quand même à la santé et au bien-être de ses employés. C'est légalement, je veux dire. C'est vrai ou c'est faux? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils entendent par veiller à la santé?
Non, mais c'est vrai dans les entreprises, comme j'ai fait anglo-néerlandaise, où par exemple, dès 2008, je formais les collaborateurs à la résilience, à la gestion du stress, etc. Donc, sur des sujets de santé mentale, ça bouge, on va dire, depuis 4-5 ans. Mais avant ça, c'était des non-sujets, quoi. C'est la santé mentale, et enfin la santé d'une manière générale, est déléguée à la médecine du travail. Et voilà, et c'est tout. Et on ne vient pas parler de santé parce qu'on a ce souci de trop cloisonner le privé et le pro en France. Moi, je pense que j'étais dans une culture d'entreprise où, je vais donner un exemple, Shell, c'est une entreprise où la sécurité est extrêmement importante. Donc, tous les ans, on avait la journée de la sécurité. Et dans la journée de la sécurité, on me parlait de comment je stockais mes produits dangereux pour mes enfants pour qu'il n'y ait pas d'accident à la maison. Et ben en fait, d'un point de vue franco-français, c'était vu comme de l'intrusion. Mais de quoi ils viennent nous parler de ce qui se passe chez nous? Alors qu'en fait, d'un point de vue anglo-néerlandais, on se préoccupe de son salarié aussi bien chez lui qu'au travail, parce qu'on a envie qu'il soit bien, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit performant, qu'il ne lui arrive pas de problème, qu'il n'ait pas d'accident. Or, en France, on nous demande systématiquement de laisser tout ce qu'il y a à la maison à l'entrée du bureau.
Donc, c'est pourtant, il y a beaucoup de preuves que... il y a beaucoup de preuves, bon, il y a beaucoup d'études qui montrent que l'état de santé... est un facteur de productivité, est un facteur de cohésion, est un, enfin, des facteurs favorables pour le travail, donc pour l'employeur.
Bien sûr.
Et ça ne suffit pas à convaincre ?
Pas encore, apparemment.
Pas encore, mais enfin, j'ai envie de dire, moi, je trouve que ça bouge énormément, et d'autant plus depuis la pandémie. Mais c'est vrai que moi, je sais que, par exemple, je travaille depuis 2008. Je télétravaille depuis 2008. Mon premier congé maternité, je me suis arrêtée 3 semaines avant parce que j'arrivais à télétravailler et que j'avais aucun problème. Pour mes jumeaux, c'est pareil. Je me suis arrêtée alors que j'avais des jumeaux, je n'ai pas eu besoin de m'arrêter avant parce qu'on me laissait télétravailler. Et je sais qu'à chaque fois, je faisais des conférences sur le télétravail en 2013, 2014, 2015, on me regardait toujours avec des yeux. Mais comment vous faites pour bien travailler de chez vous, quoi?
Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer sur ce sujet-là.
C'était le dernier épisode de notre premier talk Maïs Life en 3 parties à propos de l'impact de la santé sexuelle sur la vie professionnelle des femmes. Acteur majeur de la Femtech, Maïs Life s'engage depuis 2019 pour la santé intime et sexuelle des femmes. À travers son application, Maïs Life offre un espace pour s'informer, poser des questions, rejoindre des groupes de parole thématiques et échanger avec des sages-femmes. Maïs Life s'adresse également aux entreprises pour qu'elles fassent de la santé des femmes un levier d'égalité professionnelle et d'amélioration de la QVT. À bientôt pour notre prochain talk.